Vous allez bien ? Ça va ? Vous êtes en forme ? Aujourd'hui, on parle du Lévitique. La dernière fois, on avait fini le livre de l'Exode. Aujourd'hui, on parle du Lévitique. Le mot Lévitique, ça vient de Lévi. Lévi, c'est un des 12 fils de Jacob. Et vous savez que Jacob a changé de nom, il s'appelle Israël. Et ces 12 fils sont les ancêtres des 12 tribus. Donc en fait, vous avez... Vas-y, entre, Lauriane, ne t'inquiète pas. Oui, Julie aussi, allez-y, entrez. Je viens juste de commencer. Donc en fait, la tribu de Lévi, c'est une des 12 tribus d'Israël. Alors là, quelque chose de particulier, cette tribu, c'est qu'en fait, contrairement aux autres, elle ne va pas avoir de territoire à elle. Ça, on y viendra plus tard, on y viendra quand on fera le livre de Josué. Mais cette tribu de Lévi, elle va avoir un rôle particulier. La tribu de Lévi, c'est... Alors, qui appartient à la tribu de Lévi? Vous connaissez des personnages célèbres qu'on a vus, par exemple, la semaine dernière? Moïse, bah oui, Aaron, voilà, c'est ça, déjà. Moïse, Aaron, Myriam, voilà. Bon, c'est des frères et sœurs, évidemment. Moïse, Aaron, Myriam font partie de la tribu de Lévi. Donc, ce n'est pas une tribu anodine. Moïse, lui-même, le grand patron, fait partie de la tribu de Lévi. Et son frère, Aaron, va être le grand prêtre. Donc la tribu de Lévi, ça va être la tribu qui va être en charge de toute la liturgie, de toute la vie religieuse. Ce sont eux qui vont s'occuper des sacrifices, des fêtes, des rituels, etc., etc. Alors au sein de la tribu de Lévi, certains seront juste, on va dire, des assistants. Ce sont les Lévites, de manière générale. Et puis d'autres, ceux qui appartiennent à certaines familles, en particulier les descendants d'Aaron, eux seront des prêtres. Et au sein de cela, il y aura même un grand prêtre. Bon. Alors, on regarde un petit peu. Donc, le Lévitique, finalement, c'est le manuel du Lévite, si vous voulez. C'est ça. C'est le mode d'emploi de la liturgie. Alors, ce n'est pas forcément des choses qui nous passionnent aujourd'hui, puisque nous, on ne fait plus trop de sacrifices. Enfin, voilà, ce n'est plus exactement la pratique moderne. Mais... c'est quand même très instructif pour savoir d'abord le message qui est passé, que l'on fait passer au travers de ces textes, la comparaison avec ce qui se faisait à l'époque parmi les autres nations, les autres peuples dans l'Antiquité, est-ce qu'on pratiquait le même type de sacrifice ou alors pas du tout, etc., etc. Donc c'est quand même un livre intéressant, même si c'est peut-être pas celui qu'on lit le plus souvent. Le livre du Lévitique est décomposé grosso modo en deux grandes parties. À chaque fois que je vous donne des découpages, tout ça, c'est parfaitement subjectif. Hein. Les livres eux-mêmes, même le découpage en chapitres est tardif. Le découpage en versets est ancien. On fait des phrases, point, on entame une phrase suivante. Mais le découpage en unités, en péricopes, en chapitres, etc., tout ça, c'est tardif. Il me semble que le livre de Lévitique peut être décomposé en deux parties, avec le chapitre 16 au milieu. Moi, il me semble que le chapitre 16 est un chapitre central, c'est le fameux Yom Kippour, on y viendra tout à l'heure. Le chapitre 16 arrive, et c'est un peu l'apogée d'une progression liée à la pureté. Donc on va commencer par parler des sacrifices, les chapitres 1 à 7, comment ça fonctionne. Hein. Ensuite, on va parler de l'investiture des prêtres, l'inauguration du tabernacle, etc. Et puis ensuite, il y aura des règles de pureté jusqu'au chapitre 16. Et le chapitre 16 lui-même, c'est le jour des expiations, donc le Yom Kippour. Et puis ensuite, on attaque une deuxième section, les chapitres 17 à 26, qui forme une unité. On appelle ça le code de sainteté. Donc c'est la deuxième moitié du livre du Lévitique. C'est le code de sainteté. On va avoir tout un tas de lois liées à la sainteté, à la pratique de la sainteté et ce qu'il faut faire. Donc on va revenir sur les sacrifices, mais on va aussi parler, on va revenir sur les fêtes, etc., etc. Et puis en principe, le livre s'arrête à la fin du chapitre 26, mais vous allez voir que le chapitre 27 se présente comme un complément, un appendice dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est pour avoir une idée globale de la structure du livre. Vous voyez, ce n'est pas du tout un livre narratif, on ne va pas raconter des histoires, ce n'est pas comme dans le livre de la Genèse ou de l'Exode, où on est dans de la narration, on raconte des épisodes tous plus fabuleux les uns que les autres. Ici, pas du tout, c'est au contraire assez technique. Alors, on commence donc, vous voyez, il y a toute une liste, les premiers chapitres, toute une liste de sacrifices. On commence par l'Holocauste, chapitre 1, verset 3. Voilà comment il faut faire si c'est un holocauste. Alors, holocauste, le mot français holocauste, en fait, vient du grec et qui explique qu'on brûle tout. Donc, c'est un sacrifice entier. Le mot hébreu, c'est hola, c'est pas le même terme. Ça veut dire faire monter. Et donc, l'idée, effectivement, de l'holocauste, c'est que c'est un sacrifice complet, total, on brûle tout. Alors, évidemment, le terme est passé dans la langue aujourd'hui quand on parle de l'holocauste, souvent. Alors, pas trop en français, mais en anglais notamment, on fait référence au génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à la base, quand on parle de l'Holocauste, il s'agit d'un sacrifice total d'un animal ici. Alors, vous avez donc tout un tas de prescriptions. On dit, voilà, il faut que ce soit un mâle sans défaut, verset 3. Verset 4, on dit qu'il faut poser la main sur la tête de l'Holocauste, etc. Alors, on explique qu'il faut le couper en morceaux, enfin, etc. Il y a plein de petits détails. Et puis, au chapitre 2, on passe à un autre type de sacrifice ou d'offrande, disons, c'est une offrande végétale. On appelle ça une oblation aussi. L'oblation, c'est une offrande végétale. Donc, autrement dit, on offre de la farine. La plupart du temps, c'est ça. Donc, végétale, c'est j'ai du blé, je prends de ce blé, je prépare de la farine. Souvent, on prend de la fleur de farine, c'est-à-dire de la farine fine, la meilleure de la farine. Et puis, avec ça, on met de l'huile et de l'encens. Et on fait fumer tout ça. Alors en fait, c'est comme si on prépare un repas. Puisque quand on veut faire du pain, qu'est-ce qu'on prend ? On prend de la farine, on met de l'huile, et hop, poulet jeunesse. D'ailleurs, on voit un peu plus loin, verset 4, il faut cuire au four. On peut soit la faire fumer, soit la faire cuire au four. Auquel cas, ça fait des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Au chapitre 3, il est question d'un autre sacrifice, le sacrifice de paix. Alors le terme est un petit peu difficile en hébreu, c'est du pluriel shlamim, c'est le pluriel de shelem. Alors effectivement, c'est la même racine que shalom, et shalom, souvent, on pense à la paix. En fait, c'est plutôt l'idée d'être complet, la racine du terme shalom, donc il manque rien. Et alors, c'est un type de sacrifice qui est assez mal connu, il apparaît une seule fois au singulier, partout ailleurs au pluriel. Donc c'est toujours au pluriel, on ne sait pas pourquoi. Quand on est dans une liste de sacrifices, quand on a des textes narratifs, on raconte une liste de sacrifices, en général, il arrive à la fin. Donc on a du mal à le distinguer. Quand on voit la description ici qui en est faite au chapitre 3, on a du mal à voir des caractéristiques qui le distingueraient, par exemple, des autres sacrifices vus précédemment. Au chapitre 4, il est question de type de sacrifice qu'on va faire cette fois-ci, non pas de manière générale, il ne s'agit pas de dire tiens j'ai envie de faire un sacrifice, j'ai envie d'apporter une offrande végétale ou j'ai envie d'offrir un sacrifice shelem. J'ai plutôt, là je viens faire un sacrifice parce que je suis obligé, parce que j'ai péché. Donc ce sont des sacrifices de réparation. Alors voyez au chapitre 4, il y a le sacrifice quand on commet un péché, donc verset 3, on dit on offre un taureau en sans défaut en sacrifice pour le péché. Alors on distingue si c'est le prêtre, enfin le grand prêtre en l'occurrence, ou si c'est la communauté qui a péché, ou si c'est le prince, verset 22, un prince, donc un responsable qui pêche. Et puis verset 27, si c'est quelqu'un en particulier qui pêche. Vous voyez, donc on donne des exemples comme ça, des cas précis, on distingue un certain nombre de cas. Et donc en général, vous voyez, il y a des animaux qui sont offerts, mais à ce moment-là, il y a également une oblation et parfois aussi une libation, donc c'est-à-dire un sacrifice, une offrande liquide du vin, par exemple. Enfin, parlons plutôt plutôt de l'huile. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On revient sur la liste au chapitre 6. Au chapitre 6 et 7, ce sont un peu des résumés où on fait une liste complète. Vous voyez, chapitre 6, on commence par la loi concernant l'Holocauste, verset 1er. Deuxièmement, au verset 7, la loi concernant l'offrande végétale. Troisièmement, verset 17-18, ce sera le sacrifice pour le péché. Chapitre 7, verset 1er, sera le sacrifice de réparation. Et chapitre 11-12, le sacrifice de paix, le fameux sacrifice shelem. Donc vous voyez, quand ils sont dans une séquence comme ça, vous avez 5 types de sacrifices différents. Vous remarquez que le sacrifice shelem arrive à la fin. Et on retrouve de nouveau cette liste à la fin du chapitre 7. voyez, verset 37. Telle est la loi relative à l'Holocauste, premièrement, à l'offrande végétale, deuxièmement, au sacrifice pour le péché, troisièmement, au sacrifice de réparation, quatrièmement, à l'investiture et au sacrifice de paix, cinquièmement. Alors l'investiture s'est glissée là. En fait, l'investiture, on y vient juste après. La cérémonie d'investiture, c'est ce qui occupe les chapitres suivants. Alors voyez comment ça se passe. Sans rentrer dans les détails sur ces questions de sacrifice, on peut s'interroger à l'existence de telles pratiques au Proche-Orient ancien. Et la réponse est oui, bien sûr, ça existe. Ces sacrifices-là existent. Aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire et dans la documentation, les humains offrent des sacrifices aux divinités. Et ces sacrifices sont des sacrifices de nourriture. On leur donne à manger et on leur donne à boire. Et on vient vraiment nourrir la divinité. Et c'est vraiment ce qu'on croit. Et si on ne donne pas à manger à la divinité, elle n'est pas contente. Parce que, voilà, ventre affamé n'a pas d'oreille. Ça ne se dit pas, ça. Non. Si vous voulez attirer la faveur de la divinité, si vous voulez que la divinité vous soit favorable, eh bien, il faut la nourrir. Et au Proche-Orient ancien, il y a vraiment la notion, la divinité est réellement présente dans sa maison, on construit un temple, il y a une statuette de la divinité, elle est vraiment là, elle est vraiment présente, on vient présenter au pied de la divinité de la nourriture. Et on pense qu'on nourrit vraiment la divinité. Alors comment fait-on pour la nourrir? Parce que maintenant, si vous avez une statuette en bois, où vous pouvez essayer de lui mettre, fourguer de la nourriture dans la bouche, je ne sais pas si ça va passer, vous pouvez essayer de la gaver là comme les oies, ça ne marchera pas. En fait, on fait brûler. Et faire brûler, finalement, ça permet de passer de l'état solide à l'état de vapeur. Et donc la nourriture, elle disparaît, il y a une combustion. Donc tout disparaît. Et ça se transforme en fumée. Et c'est dans cet état de fumée que l'état solide disparaît. Et donc que cette fumée, elle peut être inhalée par la divinité. Donc il est question justement de cette odeur qui monte et qui rentre dans les narines. Et il faut que ce soit une odeur agréable. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire passer de l'état solide à l'état comestible, disons, par la divinité. On retrouve ces mêmes pratiques dans la Bible. Quand vous regardez dans le Lévitique, ces pratiques, ce sont grosso modo les mêmes. C'est pour ça qu'on offre. Qui a tout ce système d'offrandes. Alors bien sûr, le système sacrificiel est plus précis que ça. Vous voyez qu'il y a différents types qu'on distingue, qu'il y a des réglementations précises sur quel animal il faut faire, quelles sont les caractéristiques de cet animal, est-ce qu'il y a une procédure particulière, etc. etc. Mais le principe de base n'est pas nouveau. Il reste là. De la même manière, vous remarquez que les prêtres partagent une partie du repas, une partie de la nourriture. Et il y a une partie qui est offerte à la divinité, l'autre partie qui est consommée par les prêtres. C'est en réalité leur façon de vivre, puisque les prêtres n'auront pas, comme le reste du peuple, des terrains pour faire pousser leurs légumes, leurs fruits, pour avoir leur bétail, etc. Donc en fait, les prêtres, parce qu'ils n'auront pas eux-mêmes de production agricole, seront nourris précisément par les offrandes que le peuple va apporter. Alors, ce système-là, on peut le voir aujourd'hui et on peut faire des parallèles intéressants, y compris avec le Nouveau Testament. Puisque le repas de la Pâque est un repas, donc ce qui prouve bien qu'on est encore, c'est-à-dire au cœur de la liturgie, au cœur de la vie religieuse, il y a le repas. Et ce n'est pas uniquement d'un point de vue religieux, à vrai dire, d'un point de vue social, d'un point de vue anthropologique et d'un point de vue social. Le repas occupe une place fondamentale dans les rapports humains, dans les rapports sociétaux. Je veux passer un temps privilégié avec quelqu'un, ça va être autour d'un repas. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Hein. Moi, je peux témoigner, si j'ai envie de passer un bon moment avec quelqu'un, je dis, allez, on va aller manger. Et là, c'est le moment de convivialité par excellence. Et c'est vrai aussi dans le monde, dans le rapport avec le divin, et ça se retrouve également dans le Nouveau Testament, avec la Sainte Cène, l'Eucharistie. Puisque c'est un repas, c'est le repas du Seigneur. Alors, certes, le repas, aujourd'hui, n'a plus vraiment la forme d'un repas. C'est devenu un moment du culte. On ne mange pas vraiment à sa faim. C'est pas avec la malheureuse petite hostie ou le petit bout de pain qu'on va avoir qu'on va être nourri. Et puis on trempe à peine ses lèvres dans le vin, si on y a droit. Ça dépend des... Après ça, je ne rentre pas dans les détails de quelle église fait quoi pour célébrer le repas du Seigneur. Mais disons qu'il y a... même si ça n'a plus vraiment l'apparence d'un repas à l'heure actuelle, ce que je trouve personnellement assez dommage d'ailleurs, je préférerais qu'on fasse un vrai repas d'église, Il n'en demeure pas moins que la symbolique, elle est là. C'est la symbolique du repas, du partage entre nous et aussi de la communion avec Dieu. Et donc, c'est vraiment des traditions ancestrales. Je veux être en communion avec la divinité, eh bien, il y a à manger. Et on va partager un repas avec la divinité. Et donc, cette idée de partager un repas avec la divinité, elle reste dans le Nouveau Testament, y compris pour la Sainte Cène, y compris au contraire avec les démons. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit, attention, là, c'est un repas, vous partagez un repas avec, avec les démons. Donc, vous voyez, on garde cette idée-là. Quant au fait que les prêtres ou les lévites prélèvent une partie des offrandes pour eux-mêmes, eh bien, ça reste également dans la culture actuelle, où le prêtre, le pasteur, vit des dons des paroissiens, une partie de ce qui est apporté par les paroissiens est utilisé pour salarier le pasteur. Alors, on passe ensuite au chapitre 8 à 10. Les chapitres 8 à 10 sont consacrés cette fois-ci. Alors, on rebascule dans une petite section narrative, puisqu'il va être question de l'investiture. Donc là, d'un seul coup, on n'est plus dans du prescriptif. Voilà ce qu'il faut faire. On raconte comment ça s'est passé. Et en particulier, on va donc procéder à l'investiture d'Aaron, qui sera le grand prêtre, et de ses fils, qui seront donc les prêtres. Au verset 10, chapitre 8, verset 10, Moïse prit l'huile d'onction, conféra l'onction à la demeure et à tout ce qui s'y trouvait. Il consacra tout cela. Donc vous voyez que verset de l'huile revêt une symbolique. On revêt d'huile, c'est une sorte de protection. Aujourd'hui, on dirait on met un vernis, on met. Vous voyez, c'est. Moi, j'ai un parquet que j'ai posé récemment, c'est un parquet qui est huilé. Donc, je l'ai acheté comme ça, et le vendeur m'a dit non, rassurez-vous, il est déjà huilé, il n'y a pas besoin, etc. Donc, il est déjà oint, mon parquet. Donc, si vous venez chez moi, il faut enlever vos chaussures, parce que le parquet est oint. Bref. Verset 12, il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Donc, Aaron aussi est huilé. C'est-à-dire « oint ». Ah oui, j'en profite pour faire un petit point de vocabulaire. Le verbe « oindre », c'est ça que ça veut dire. « Oindre », ça veut dire « revêtir d'huile ». Donc, quand il est question d'onction, c'est simplement le versement de l'huile. Donc, c'est ça, l'onction, « oindre », etc., etc. Alors, l'adjectif « oint », en hébreu, ça se dit « machiar » ou « machouar », on trouve les deux. Et c'est le terme qui est traduit, plutôt translittéré en grec, par « messias ». En grec, parfois, au lieu de traduire, on va simplement translittérer, ça va donner Messias, parce qu'en grec, il n'y a pas de son che. Et du coup, du grec, ça passe au français, ça donne le Messie. Donc quand on parle du Messie, en fait, c'est la transcription d'un mot hébreu via le grec, et le latin, on va dire, qui veut dire, ma chère, qui veut dire oint, c'est-à-dire huilé, ou huileux, comme vous voulez. Machiar. Machiar. Tu veux que j'écrive au tableau? Voilà, machiar, avec un petit patin furtif. Vous adorez les patins furtifs, je le sais. Donc ça donne le Messie. Quand il est question du Messie, il est question du oint. De celui qui est oint, de celui qui est huilé. En grec, parfois, au lieu de transcrire simplement l'hébreu, on l'a traduit. Et donc l'adjectif grec qui veut dire oint ou huileux, si vous voulez, c'est Christos en grec. Christos, avec un qui au début. Et là, c'est pareil, si vous le translittérez en français, ça donne Christ. Donc, quand on parle du Christ, c'est pareil, c'est qu'on parle du Messie, c'est la même chose, tout ça, ça veut dire loin. L' apostrophe, pas loin, l'adverbe loin, lointain, mais L' apostrophe O-I-N-T. Donc, celui qui a reçu l'onction. Donc, quand on parle du Messie ou du Christ, on parle de celui qui a reçu l'onction. On dit, ça veut dire quoi, recevoir l'onction? Ça ne veut pas juste dire que quelqu'un a une peau grasse ou qu'il a besoin de faire un soin ou je ne sais pas quoi, le pauvre, pas du tout. Ou qu'au contraire, il est allé au spa et qu'on lui a fait un masque huileux. Pas du tout. En fait, vous voyez ici, recevoir l'onction ou conférer l'onction, c'est un signe de consécration. C'est celui qui a été choisi et mis à part pour un rôle particulier, pour une mission particulière. Alors c'est le cas du grand prêtre. Ici, vous voyez, chapitre 8, verset 12, il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Aaron est donc un oint, c'est-à-dire un messie, c'est-à-dire un Christ. Et le grand prêtre, et ce sera à chaque fois la cérémonie d'investiture du grand prêtre, il y aura toujours un rituel d'onction. Et donc, le prêtre, le grand prêtre, est un Messie, c'est un Christ. Ce sera aussi le cas pour les rois, on verra ça plus tard, mais les rois également, choisis par Dieu pour avoir une responsabilité, cette fois-ci non pas politique, mais non pas religieuse, mais politique sur le peuple, recevront également l'onction pour bien dire que le rôle qu'ils exercent, ce n'est pas eux qui l'ont choisi ou qui ont usurpé ce rôle, mais que c'est vraiment Dieu qui leur délègue cette fonction et qu'ils sont de certaine manière soumis à Dieu. Et donc, cette responsabilité, qu'elle soit royale ou sacerdotale, eh bien, elle sera signalée par cette onction. Donc, quand on dit c'est un Christ ou c'est un Messie, en général, on va penser soit à un prêtre, un grand prêtre, soit à un roi. Donc, on peut avoir deux types de Messie, si vous voulez. Et d'ailleurs, dans les manuscrits de la Mer Morte, on attend la venue du Messie, et dans un des textes, dans un des manuscrits de la Mer Morte, il y fait allusion au Messie d'Aaron et au Messie d'Israël. Le Messie d'Aaron, c'est le Messie fils d'Aaron, si vous voulez, c'est le Messie prêtre, et le Messie qui sera fils d'Israël, ce sera le Messie qui sera le Messie roi. Et ça peut être deux personnages différents. Alors évidemment, dans le Nouveau Testament, ce qu'on découvre, c'est que Jésus est à la fois un Messie sacerdotal et un Messie royal. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en principe, c'est pas possible. Le grand prêtre est fils d'Aaron. Et les prêtres sont tous fils d'Aaron, donc ils sont de la tribu de Lévi. Or, ce qu'on a vu dans la bénédiction de Jacob, que Jacob a accordé à ses 12 fils, c'est que c'est la tribu de Juda qui est choisie pour avoir le sceptre. Et en fait, derrière ça, les questions du lion de Juda, on pense bien sûr à David et à ses fils. Donc ça, on y viendra quand on fera le premier livre de Samuel. On verra comment, de quelle façon, la tribu de Juda, et en particulier David, sera choisie pour être roi et que ce soit une dynastie éternelle. Et donc, en principe, le Messie sacerdotal est de la tribu de Lévi et le Messie royal est de la tribu de Juda. Donc il y a incompatibilité, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'au deuxième siècle avant notre ère, quand il y a la révolte des Maccabées, avec l'instauration de la monarchie asmonéenne, alors c'est à l'époque hellénistique, je sais pas si on aura le temps d'y venir, parce que c'est pas dans la Bible hébraïque justement, c'est relaté dans le livre des Maccabées notamment, qui est dans l'Ancien Testament de la plupart des églises chrétiennes, mais pas dans la Bible hébraïque, eh bien, il va y avoir un problème puisque ce sont les Asmonéens sont de la tribu de Lévi, ce sont des prêtres, des grands prêtres, mais au bout de quelques générations, l'un ou l'autre grand prêtre va se qualifier de roi, va prendre le titre de roi. Et ça arrive au tournant du 1er siècle avant notre ère. Au 2e siècle avant notre ère, les grands prêtres gardent le titre de grand prêtre, il n'y a pas de roi puisqu'on est... On était avant sous domination hellénistique. Hein, après Alexandre le Grand, il y avait. Alors on s'est baladé entre les Lagides et les Séleucides, mais grosso modo, on était sous domination hellénistique. On bénéficie d'une certaine autonomie sous les Asmonéens, mais en réalité, techniquement, le grand prêtre, il a une responsabilité uniquement religieuse. Alors il se trouve que sa responsabilité s'étend au pouvoir civil également, mais il ne prend pas le titre de roi, sauf vers la toute fin du IIe siècle et le début du Ier siècle avant notre ère, où l'un ou l'autre responsable asmonéen frappe Monet en disant « je suis roi ». Alors, on a les pièces de Monet, on les a, je pourrais vous les montrer. Enfin, des photos, je ne les ai pas. Mais, et là, ça fait scandale. Là, on dit « attendez, il y a un problème, parce que nous, le roi de Juda, le roi d'Israël, le roi à Jérusalem, il ne peut pas être de la tribu de Lévi, il doit être de la tribu de Juda. Il doit être descendant de David. » Et c'est là que se développe une littérature dans le judaïsme ancien liée à l'attente messianique, mais d'un messie royal, fils de David. On se dit non. Nous, le roi qu'on attend, c'est pas un roi asmonéen, c'est un roi fils de David. Parce que les asmonéens, ce sont des lévites. Donc ça ne peut pas être eux. C'est pas eux qu'on attend. Et quand Jésus arrive, Jésus est fils de David. Il l'est même doublement, il l'est par sa mère, Marie, et il l'est par son père, Joseph. Quand vous regardez les deux généalogies dans l'évangile de Matthieu et de Luc, vous avez droit à deux généalogies différentes, l'une par sa mère, Marie, l'autre par son père, Joseph. Et dans les deux cas, vous remontez jusqu'à David. Donc, C'est pour montrer à quel point il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que Jésus est bien fils de David. Donc, il a une légitimité à être qualifié d'un messie royal. Mais alors, comment peut-il être qualifié de messie sacerdotal? Ça, ça pose problème. Parce qu'on attend aussi le messie sacerdotal, on attend le grand prêtre. Eh bien, la réponse, elle nous vient notamment dans l'Épître aux Hébreux, qui nous explique que Jésus est prêtre, non pas selon l'ordre d'Aaron, effectivement, il n'est pas fils de Lévi, mais selon un autre ordre. Est-ce que vous savez lequel? Quelqu'un? Non? L'Épître aux Hébreux? Non? Bon. Melchisédek, merci. Il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors vous dites, mais c'est qui Melchisédek? Vous devriez le savoir, si vous avez lu votre Bible. Jusque-là, en tout cas. C'est où? Exactement, c'est le grand prêtre qui offre un sacrifice quand Abraham vient. Vous avez ça à la fin du chapitre 14 de la Genèse. Chapitre 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il le bénit en disant béni soit Abraham, etc. Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, c'est le seul endroit où Melchisédek apparaît. Là, dans la Genèse, quelques versets. On ne sait pas d'où il sort. Enfin, si, il est roi de Salem, donc c'est un roi. En même temps, il est prêtre. Salem, Shalem, c'est la ville du dieu Shalem, c'est le dieu Shalem. Alors, la ville de Jérusalem elle-même, c'est Urushalimu, enfin, Yerushalem, ça veut dire fondation du dieu Shalem. Donc, il est possible que la ville de Shalem, en fait, ce soit la ville de Jérusalem, de Urushalim. Donc, il est peut-être roi à Jérusalem. Donc, l'idée, c'est qu'il serait roi et prêtre à Jérusalem. Donc, c'est formidable de dire Jésus est lui aussi roi et prêtre de Jérusalem, c'est formidable. Donc là, on remonte avant, bien avant Moïse, puisqu'on remonte jusqu'à l'époque d'Abraham. Donc, on dit Jésus est prêtre selon un autre ordre. L'ordre de Melchisédek. Alors Melchisédek, c'est un personnage qui est... Alors il apparaît juste là dans Genèse 14, on ne sait pas très bien qui c'est. Il est mentionné vaguement dans un psaume à l'occasion. Mais en fait, il y a une littérature qui se développe autour de ce personnage dans le judaïsme, à l'époque du Second Temple, précisément parce que c'est une figure messianique, un peu mystérieuse. Et comme elle est mystérieuse, on peut raconter tout ce qu'on veut dessus. Et donc ce sera la solution dans le Nouveau Testament pour permettre à Jésus d'être à la fois un messie royal et un messie sacerdotal. Alors je referme la parenthèse, j'en reviens ici au chapitre 8 du Lévitique. Ici, Aaron est bien donc le prêtre, le grand prêtre, le Messie sacerdotal, il reçoit l'onction, verset 12. Alors après ça, évidemment, il y a toute une cérémonie que vous avez lue par vous-même. Il y a un sacrifice pour le péché, verset 14, verset 18, il y a un holocauste, verset 22, il y a un bélier d'investiture, etc., etc. La cérémonie dure plusieurs jours. Verset 33, pendant 7 jours, vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre jusqu'à ce que les jours de votre investiture soient achevés. Donc, cette cérémonie d'investiture dure une semaine. Chapitre 9, verset 1er, le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils. Il dit, prends un taurillon, sacrifice pour le péché, un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sont des fous, etc. Donc, il y a de nouveau un sacrifice. Verset 4, il y a un sacrifice de paix, une offrande végétale, c'est-à-dire une oblation. Etc. etc. Donc, et puis, verset 22, Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Vous voyez, c'est un geste. Vous voyez qu'on repère des gestes qu'on connaît encore aujourd'hui. Quand on pose sa main sur la bête avant de la sacrifier, quand on lève les mains en signe de bénédiction du peuple, ce sont des gestes traditionnels qui sont encore qui sont préservés jusqu'à ce jour. Aujourd'hui encore, si vous allez à la messe ou au culte, vous allez voir le prêtre ou le pasteur qui va lever les mains en signe de bénédiction du peuple. Quand il va y avoir une cérémonie, quand il va y avoir l'ordination d'un pasteur ou d'un prêtre, en général, on va imposer les mains au prêtre. Et donc ça, c'est une tradition qui se perpétue. On la retrouve dans le Nouveau Testament. On prie pour les gens, on prie pour les malades. Dans l'épître de Jacques, il dit voilà, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens vont verser de l'huile, donc on a encore l'idée d'onction, et puis on va lui imposer les mains. Donc vous voyez que dans la liturgie chrétienne, en fait, on retrouve ces gestes qui sont traditionnels. Et c'est pour ça que le Lévitique revêt un intérêt, y compris lorsqu'on s'intéresse à des pratiques contemporaines, ça permet de tracer l'origine, de remonter au moins jusqu'au Lévitique, et en fait, probablement, on peut remonter encore avant. Alors on a quelques petites règles supplémentaires qui concernent les prêtres, des petites choses amusantes. Chapitre 10, verset 9, 8, 9, le Seigneur dit à Aaron, tu ne boiras ni vin ni boisson alcoolisée, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre. Bon ben voilà, donc on ne peut pas officier en étant alcoolisé. Donc je ne sais pas s'il faut appliquer ça aujourd'hui aux prêtres ou aux pasteurs. Si on faut leur interdire de picoler avant, de, avant le culte ou la messe, je ne sais pas. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Alors, à partir du chapitre 11, on a fini hein, la question de l'investiture, etc. On revient à des règles de pureté. Et donc, les chapitres 11 à 16 vont être des règles de pureté et de purification. Avec, on va parler, par exemple, des animaux purs et impurs. Vous avez des critères pour savoir si on a le droit de manger un animal ou pas. C'est la cache-route, c'est-à-dire les règles pour les aliments qui sont dits cachers. Vous savez, dans le judaïsme, on mange cachère. Donc il faut vérifier qu'on ne mange pas, enfin voilà, ce qu'on mange, on a le droit de le manger, et que la façon dont c'est préparé, on a le droit. Alors c'est là que vous trouvez ces règles pour savoir quel animal on peut manger ou pas. Par exemple, verset 3, vous pourrez manger tout ce qui a les sabots fendus, les pieds fourchus et qui ruminent. Vous avez trois critères. Il faut que les trois critères soient respectés. Si un des trois critères manque, l'animal ne peut pas être mangé. Donc, par exemple, on vous dit, vous ne pouvez pas manger de chameau, verset 4, verset 5, le daman, verset 6, le lièvre, verset 7, le porc. Ça, c'est connu, on sait que les Juifs ne mangent pas de porc, etc., etc. Verset 9, vous ne pourrez pas manger, vous pourrez manger de tout ce qui a des nageoires et des écailles, donc très bien, donc il y a deux règles, ça c'est pour les poissons si vous voulez. Donc si ça a à la fois des nageoires, on peut, mais là encore, s'il manque un des deux critères, c'est pas possible. Ensuite il y a les oiseaux, etc., etc. Donc il y a toute une liste d'animaux qu'on ne peut pas manger. On peut manger celles qui, par exemple, alors les petites bestioles et les petites bêtes, là, verset 21, on peut manger. Celles qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, c'est-à-dire les sauterelles, les grillés, les criquets, etc., les grillons. Les autres insectes, on ne peut pas les manger. Donc vous voyez, il y a toutes ces règles. Alors ça, c'est pareil, ça nous interpelle en disant, mais finalement, à quoi elles servent ces règles? Est-ce qu'elles ont... Il y a une raison, est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Et est-ce qu'il faut les mettre en pratique? Donc ça, c'est les questions théologiques soulevées par ce genre de texte. Alors... Est-ce qu'il y a une rationalisation possible? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il faut que ces trois critères plutôt que deux, etc.? Ça fait très longtemps que les spécialistes, des biologistes, etc., se sont penchés sur la question, et à vrai dire, non. On n'a pas l'impression qu'il y a une raison au fait qu'il y a ces trois critères et pas les autres, etc., etc. Ça semble totalement arbitraire. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de parallèle strict parmi les autres textes de l'Antiquité, les autres nations, on ne peut pas dire qu'ils ont simplement récupéré ça d'ailleurs. Donc là, pour le coup, ça semble être, en tout cas partiellement, une innovation. Et un autre élément qui permet de penser qu'il n'y a pas forcément une vraie raison à cela, c'est tout simplement que cette législation-là, on la laisse tomber dans le Nouveau Testament. Dans Marc chapitre 7, Jésus dit que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qu'il souille, c'est ce qui en sort. Et le texte précise, en disant cela, Jésus déclare tous les aliments purs. Donc, autrement dit, Jésus dit finalement, les aliments en eux-mêmes sont purs. Et vous avez Paul qui est d'accord avec Jésus dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, 15. Pareil, Paul va dire, moi je suis convaincu personnellement que tous les aliments sont purs. Simplement, Paul respecte s'il y en a qui préfèrent ne pas manger tel ou tel aliment. Donc, si vraiment il y avait une raison biologique, médical, sanitaire à cela, on ne voit pas pourquoi Jésus et Paul diraient « mais non, en fait, ça ne sert à rien ». Ça veut dire que la raison, elle est ailleurs. Et la raison, il faut la chercher peut-être au même niveau que l'ensemble du livre de Lévitique, on est dans le cadre de règles de pureté et de sainteté. Et Dieu donne des règles très strictes. Rappelez-vous, dans le livre de l'Exode, Dieu donne des consignes très strictes pour la fabrication du tabernacle. Il faut utiliser tel tissu, il faut que ça mesure telle longueur et pas telle autre, etc., etc. Et quand le peuple fait comme il le veut, dit ben voilà, nous on va se doter d'un veau d'or, etc., etc., Dieu est mécontent, disant mais attendez, c'est pas vous qui faites comme vous voulez, c'est moi qui vous dis comment vous devez faire. Et donc, ça veut dire que Dieu veut que son peuple soit différent des autres peuples. Alors en même temps, on va dire c'est pareil, parce que l'idée de faire des sacrifices, ben ça, on trouve ça partout, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, finalement, l'idée de faire des sacrifices, c'est pas nouveau. Donc d'un côté, il y a plein de choses qui sont identiques, mais précisément, dans les détails, eh bien, on va créer tout un tas de règles qui sont assez difficiles à suivre, il faut bien les mémoriser, etc., et qui, en fait, ont pour but de créer une séparation. Et c'est, d'un point de vue... c'est très efficace. Si on ne mange pas la même chose, c'est très difficile. Puisqu'on disait tout à l'heure que le repas, finalement, c'est le moment de convivialité par excellence, si on ne peut pas manger, ça devient très difficile de vivre ensemble. Et croyez-moi, c'est difficile pour des Juifs de vivre dans un contexte où il n'y a pas de nourriture cachère à disposition facilement. Ici, ça va, à Strasbourg, il y en a une, on a une bonne communauté juive. Donc, il y a, juste à côté, là, à 50 mètres, il y a un petit supermarché cachère. C'est pas difficile de se nourrir cachère. Mais à d'autres endroits, c'est virtuellement impossible. Ou alors, il faut soi-même, pratiquement, il faut tout faire soi-même. Alors que vous allez en Israël, c'est hyper facile. Donc, ça veut dire que ça pousse. Si vous devez respecter toutes ces règles, ça veut dire que concrètement, vous pouvez pratiquement pas vivre avec les autres. Vous êtes obligé de vous séparer. Et ça, c'est un procédé qui est diablement efficace pour pouvoir imposer une séparation et une frontière. On va retrouver le même phénomène avec les questions de calendrier. Si vous regardez les manuscrits de la Mer Morte, eh bien vous trouvez des textes calendaires. Et vous vous rendez compte que tout le monde n'a pas le même calendrier, et parfois, pas toujours le même nombre de jours dans l'année. Dans le livre d'Enoch, par exemple, on vous présente un calendrier à 364 jours par an. Or, vous savez que l'année, c'est 365 jours plus un quart, sauf une fois de temps en temps. Ça veut dire que chaque année, si votre année elle ne fait que 364 jours, vous perdez au moins un jour par an. Donc au bout de 20 ou 30 ans, vous avez un mois d'écart. Au bout d'un siècle, vous avez une saison d'écart. Donc ça veut dire que vous êtes complètement décalé par rapport à tout votre environnement. Et ça, c'est... Je ne sais pas, imaginez si on n'a pas le même calendrier, on veut se voir, on se donne rendez-vous, mais écoute, on se voit le 12 novembre. Oui, mais si le 12 novembre, pour nous, ce n'est pas le même jour, on ne peut pas se voir. Donc, vous voyez, c'est le genre de procédé qui permet de créer une distinction très claire. Et en fait, finalement, ces règles alimentaires, c'est à cela qu'elles servent. Elles servent à, d'une façon relativement artificielle, séparer, distinguer le peuple d'Israël des autres peuples. Donc, on comprend mieux pourquoi, quand on arrive dans le Nouveau Testament, où précisément le règne de Dieu n'est plus un règne qui est censé avoir des frontières géographiques. Jésus, quand on lui dit « tu es le roi des Juifs, donc est-ce que tu veux prendre est-ce que tu veux bouter les Romains hors de la Judée et reprendre le pouvoir politique de Judée ?» Jésus dit non, c'est pas ça qui l'intéresse. Jésus, il est roi, mais pas roi d'une entité politique géographique. Le royaume du Christ, il s'étend sur la planète entière. Et ça n'est pas un royaume politique, géographique. Donc, ces règles qui visaient à renforcer les frontières, ou la notion communautaire, en disant « nous vivons entre nous et pas avec les autres », eh bien, elles n'ont plus lieu d'être. Et Jésus, dans Marc 7, il est très clair, et il n'y a pas que Marc, vous regardez les parallèles dans Matthieu, dans Luc, etc. Pour lui, il n'y a aucun problème, on peut manger de tout. Et Paul est d'accord avec, on peut manger de tout. Ça, je pense que c'est quand même relativement important de le savoir. Alors maintenant, la question se pose éventuellement pour des Juifs. Dans Romains 14, 15, Paul dit, d'accord, mais bon, il y a peut-être des gens qui, par ailleurs, outre le fait qu'ils sont chrétiens, sont des Juifs, et donc ils considèrent que ces pratiques, elles sont culturelles, finalement. Et donc, ils ont envie de les respecter. Non pas parce qu'ils pensent qu'ils doivent impérativement le faire pour être sauvés, parce que s'il faut respecter les règles alimentaires pour mériter le salut, ça va contre le message de l'Évangile. Mais peut-être parce que culturellement, c'est important pour eux. Donc, ceux-là, Paul, il dit, d'accord, on ne va pas les empêcher de respecter les règles alimentaires. Et du coup, si tu invites ton frère chez toi et que lui, il croit qu'il ne peut pas manger de tout, tu ne vas pas lui servir du porc si lui, il ne peut pas manger de porc. Il ne faut pas être l'occasion de chute pour ton frère. Mais cela dit, Paul, il est pleinement convaincu qu'on peut manger de tout. Alors, ça pose la question pour certains milieux chrétiens qui ne sont pas du tout juifs et qui pourtant imposent le respect de ces règles alimentaires. C'est le cas, par exemple, des adventistes. Et les adventistes du septième jour, qui est un mouvement évangélique, relativement fondamentaliste, qui a pour origine une prophétesse qui aurait reçu de Dieu. Dieu lui aurait dit, mais c'est pas bien du tout, les gens ils ne respectent plus ma loi. Or, la loi, elle dit bien qu'il faut respecter les règles alimentaires, que c'est bien le septième jour de la semaine, le sabbat, donc le samedi, c'est donc bien le samedi qu'il faut célébrer, pas le dimanche, etc. etc. Donc les adventistes du septième jour font leur culte le samedi, respectent les règles alimentaires, etc. etc. Donc, vous voyez, là, il y a matière à discussion d'un point de vue théologique en disant, mais attendez, est-ce que c'est vraiment justifié d'un point de vue théologique, y compris quand on prend le Nouveau Testament et ce que Jésus et Paul disent, de respecter ces règles alimentaires. Bon, voilà, ça c'est pour vous donner un peu une idée des débats qui peuvent être liés à ces chapitres-là. Alors je continue, il y a ensuite des règles de pureté non plus alimentaire, mais individuel, lié à la santé, donc aux maladies de peau chez les hommes, pour les femmes lorsqu'elles ont leurs règles, pour les hommes également lorsqu'ils ont une éjaculation. Je suis désolé, hein, c'est pas exactement les, mais bon, voilà, c'est etc. etc. Donc je passe rapidement sur tous ces textes-là. Ce sont des textes de pureté. Alors, malgré tout, on peut être choqué par certains aspects. Voilà, y a, même les maisons, hein, il y a la question de la pureté. Je regarde là, vous voyez, chapitre 14, verset 35. Une sorte de tache est apparue dans ma maison, etc. Même lorsque les maisons semblent tachées, eh bien, il y a une procédure, hein, pour purifier, etc. Je vous disais, voilà, chapitre 15, verset 2, tout homme atteint d'un écoulement génital est impur, etc. etc. Verset 18, lorsqu'un homme a des rapports sexuels avec une femme, ils se laveront avec de l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est mal d'avoir des rapports sexuels ? Et on nous dit, verset 18, chapitre 15, verset 18, lorsqu'un homme a des rapports sexuels avec une femme, ils se laveront avec de l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Non, c'est pas mal. C'est pas un péché, pas du tout. Au contraire, quand Dieu crée l'homme, vous avez lu comme moi le texte de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il crée la femme, il les bénit. Quand il crée l'homme et la femme, dès le chapitre 1er, soyez féconds, multipliez-vous, etc., etc. Donc, les rapports sexuels ne sont pas mauvais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut... Et de la même manière, le fait que la femme ait ses règles, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est beau. Ça veut dire qu'elle peut procréer. Donc c'est fabuleux, au contraire. Il s'agit de bien distinguer les règles de pureté des questions de péché. Pur et impur, ça n'a rien à voir avec bien ou mal. Pour nous, naturellement, oui, on se dit pur, c'est bien, impur, c'est mal. Non. Il n'y a pas de dimension morale intrinsèque aux questions de pureté rituelle, pureté et d'impureté rituelle dans la Bible. Et c'est vrai après dans le judaïsme, dans la Bible, mais c'est vrai après dans le judaïsme. En fait, ce sont des questions de frontières. On passe d'un cercle à un autre. On passe d'un environnement à un autre. Et c'est un peu comme vous, je sais pas, quand vous passez d'un endroit à un autre, vous passez des tourniquets, et bien on passe des tourniquets. Et donc, ça veut dire qu'il y a des procédures. Je vous donne un exemple, peut-être l'exemple le plus frappant. Dans la littérature rabbinique, on discute des livres qui souillent les mains. Et on dit quels sont les livres qui souillent les mains. Et on va dire tel livre souille les mains, tel livre ne souille pas les mains. Alors en fait, cette discussion rabbinique pour savoir, mais est-ce que, je sais pas, est-ce que le livre des psaumes sous les mains, est-ce que le livre du Siracide sous les mains, est-ce que le livre d'Esther sous les mains, on s'interroge si sous les mains ou pas. Et en fait, la question, il faut décoder, ce dont on discute, c'est de savoir si tel livre est considéré dans notre vocabulaire à nous, on dirait est-ce qu'il est canonique ou pas canonique, autrement dit, est-ce qu'il doit faire partie de la Bible ou pas. C'est ça la question que les rabbins se posent. Est-ce que tel livre doit faire partie de la Bible ou est-ce qu'il ne fait pas partie de la Bible? Alors, donc, naturellement, on va se dire, ben voilà, ceux qui souillent les mains, ce sont les livres qui ne sont pas bien. Ouh là là, attention, si on les touche, ils souillent les mains. Donc, ceux-là, c'est des livres qu'il ne faut pas lire, ce sont des livres qui ne sont pas canoniques, qui ne sont pas bibliques. Alors que ceux qui ne souillent pas les mains, ce sont des livres qui sont bien, qui sont purs, donc on peut les toucher, donc on peut les lire, donc ce sont les livres bibliques. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement le contraire. Si vous lisez la littérature rabbinique, quand il est question de dire qu'un livre souille les mains, si le livre souille les mains, c'est précisément qu'il est biblique. C'est-à-dire que le livre, il est saint, il est sacré. Et si je le touche, je dois me laver les mains après. Et ce processus, pourquoi je... Donc, vous voyez, ça veut dire que j'ai franchi un seuil. Et c'est ça le système de pureté-impureté. Pureté-impureté, c'est je franchis une frontière, je franchis un seuil. J'ai franchi le seuil, j'ai touché un livre qui était sacré, je dois me laver les mains. Donc ce livre, il souille les mains. Donc les livres bibliques, ce sont ceux-là qui souillent les mains. Alors que si je manipule un livre qui n'est pas biblique, qui n'est pas canonique, c'est un livre commun. Il n'est pas sacré. Et donc j'ai pas besoin de me laver. Il n'y a pas besoin d'avoir une procédure où je dois me laver les mains, blablabla. Et donc cela, il ne souille pas les mains. Donc, vous voyez, c'est l'exemple pour vous dire, pur et impur, ça ne veut pas dire bien et mal, au contraire. Les livres qui sous les mains dans l'état biblique, ce sont ceux qui, au contraire, sont sacrés. Donc, quand on lit ces textes-là, on peut être choqué. Quand on dit, comment ça, mais alors quoi, une femme qui a ses règles, elle est impure, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Mais alors voilà, un homme et une femme qui ont des rapports sexuels, mais alors quoi, ils sont impurs, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est mal? Non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est simplement, là encore, des questions de liturgie, il y a des rituels, et on passe d'un état à l'autre. On pourrait dire, d'une certaine manière, on pourrait même dire que, on pourrait même accorder une certaine sacralité à l'acte sexuel, en disant, voilà, c'est quelque chose, au contraire, de précieux, qui a de la valeur, et après ça, il faut se purifier. J'en arrive au chapitre 16. Le jour des expiations. C'est le Yom Kippour, si vous voulez, aujourd'hui. C'est une fête majeure, le point d'orgue des questions, justement, de pureté. Alors, c'est un jour où on va peut-être finalement synthétiser tout ce qui a été fait dans l'année. À chaque fois que quelqu'un commet une faute, il va aller faire un sacrifice. Mais là, on va faire le sacrifice des sacrifices. On va expier les fautes de tout le monde pour toute l'année. Alors, dans cette cérémonie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a en réalité deux boucs. Au verset 8, Aaron tira au sort les deux boucs, un sort pour le Seigneur et un sort pour Azazel. Ah oui, mais c'est qui Azazel ? Azazel, c'est un démon, si vous voulez. Alors, c'est le nom d'un ange déchu, vous l'avez, pour la première fois, me semble-t-il, dans le livre d'Enoch. Il fait partie des chefs des anges déchus. Et donc, c'est quelqu'un de mal, si vous voulez. Et donc, il y a un bouc pour le Seigneur et un bouc pour Azazel. Le bouc pour le Seigneur est offert en sacrifice. Verset 10, « Quant au bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, on le placera vivant devant le Seigneur avant de faire l'expiation sur lui et de l'envoyer dans le désert pour Azazel. » Donc, c'est un bouc qu'on envoie au désert. Vous voyez, c'est cette particularité de ce chapitre et de cette cérémonie. C'est un cas unique dans tout le système sacerdotal biblique. Un peu plus loin, verset 20, à la fin du verset 20, il présentera le bouc vivant. Aaron posera les deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions, tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc. Vous voyez, une sorte de transfert des fautes, le fait d'imposer les mains en transfert. Puis il l'enverra dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc sera chargé de toutes leurs fautes et les emportera vers une terre inaccessible. Ainsi, on enverra le bouc dans le désert. Donc il y a cette idée que le bouc se trouve chargé de toutes les fautes de tout le monde et il est envoyé au désert, c'est-à-dire qu'on ne le reverra plus jamais. Et les fautes, elles sont de certaine manière oubliées, elles sont parties. Et donc cette cérémonie a lieu une fois par an. Le Yom Kippour, c'est à l'automne, hein, c'est le jour... alors, il y a la guerre du Kippour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les nations arabes ont profité du Yom Kippour, justement, qui est un jour de jeûne, un jour pour attaquer Israël. Donc, ça se produit à l'automne. En général, c'est du côté du mois de septembre, vous voyez, c'est septembre-octobre. À l'automne. Alors, à partir du chapitre 17, vous avez donc le fameux code de sainteté, qui reprend tout un tas de... Alors là, c'est évidemment assez long. Il y a des prescriptions très précises sur liées à la sainteté. Donc là, pour le coup, on est dans ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, là, c'est différent. Par exemple, il est question de rapports sexuels en particulier qu'on va considérer comme étant illégaux. C'est mal. Notamment l'inceste, dans les rapports dans la famille. Chapitre 18, hein, il est question de la femme du père, de la sœur, de la fille du fils, de la fille, de la femme du père, donc c'est la demi-sœur, etc., etc. Enfin bref, la belle-fille, verset 18, tu ne prendras pas la sœur de ta femme, tu exciterais une rivalité en exposant sa nudité en plus de celle de ta femme, du vivant de celle-ci. Alors c'est marrant, ça vous dit quelque chose de ne pas prendre la sœur de la femme? Ça vous rappelle rien? Ben oui, on a des cas dans la Genèse, Rachel et Léa, précisément, et on voit les jalousies que ça suscite. Verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer au Molech. Alors, c'est un sacrifice d'enfant. Alors, évidemment, c'est terrible, mais malheureusement, ça se faisait. Etc., etc. Alors verset 22, il y a un verset qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Verset 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors ce verset est utilisé pour condamner l'homosexualité, évidemment, en disant, mais regardez, la Bible dit clairement qu'il ne faut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, c'est l'abomination. Et on enchaîne au verset 23, tu n'auras de rapport sexuel avec aucune bête, tu te rendrais impur avec elle, une femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler. C'est une perversion. Donc la zoophilie, si vous voulez. Donc on condamne d'emblée l'homosexualité et la zoophilie. Donc c'est des textes qui sont très durs aujourd'hui, dans le cadre évidemment du dialogue des débats sur la question du mariage homosexuel, etc., etc. Alors, on pourrait passer beaucoup de temps, on pourrait discuter d'abord de la compréhension elle-même du verset en hébreu, c'est pas évident, hein. Le verset en hébreu est pas facile à comprendre. On sait pas s'il s'agit simplement d'une condamnation d'un rapport sexuel, de tout type de rapport sexuel entre hommes, ou si on condamne précisément un type d'union sexuelle. Et l'union sexuelle, un type d'union sexuelle qui est celui avec une femme. Alors bref, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, en plus on n'a pas le temps, mais ça pose la question. Et puis bien sûr, même si ce verset, on l'interprète comme étant une condamnation des rapports homosexuels, on peut se poser la question de dire, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? La question se posait précédemment pour l'action de loi alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, je mange du porc ou pas ? Si je dis quel verset je garde et quel verset je ne garde pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on ne peut pas simplement dire « Ah, mais c'est dans la Bible, donc il faut le faire. » Parce que précédemment, on a vu qu'il ne fallait pas manger de chameau et qu'il ne fallait pas manger de je ne sais pas quoi, etc. Donc, ou bien on applique à la lettre ce qui est virtuellement impossible, ou bien on essaie de comprendre pourquoi ces versets sont dans la Bible et on essaie de voir, finalement, quel est le message et de se poser la question de savoir est-ce que ce message est encore d'actualité ou pas. Donc ça, mais c'est juste pour que vous sachiez que ce verset est un des versets qui fait débat quand on discute aujourd'hui sur les questions d'homosexualité. Alors, évidemment, on ne peut pas discuter de ça maintenant, ce n'est pas le but, mais ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les clés et que vous sachiez quels sont les passages importants quand vous lisez la Bible. Alors ensuite, chapitre 19, on retrouve des instructions qui reprennent plus ou moins les 10 commandements. Vous voyez, verset 3, il faut respecter son père et sa mère, respecter les sabbats. Verset 4, il ne faut pas avoir de faux dieux, pas faire des dieux de métal fondu, donc pas d'idole. Verset 9, il ne faut pas moissonner ton champ jusqu'au bord pour laisser des choses à glaner, etc. etc. Il ne faut pas faire de faux serments, verset 12, il ne faut pas mentir, etc. Il ne faut pas calomnier, verset 16, etc. etc. Et verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est intéressant, c'est quand même des versets fondamentaux. Jésus dit que finalement, toute la loi est résumée en cela. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Toute la loi est rassemblée là-dedans. C'est très intéressant. Alors, il y a une condamnation, verset 26. Vous ne pratiquerez pas la divination, vous ne chercherez pas de présage. Vous ne couperez pas en rond les bords de votre chevelure, tu ne raseras pas les bords de ta barbe. Vous ne vous ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage. Alors vous voyez, c'est des versets qui sont intéressants parce que ça suscite des questions. Ah bon, bah, alors il ne faut pas faire de tatouage, mince alors. Ah ben alors, moi, qu'est-ce que je fais de mon tatouage ? Mais vous voyez qu'ici, le contexte est clairement le contexte de la divination. Donc la question de couper les bords de la barbe, etc., etc., il faut bien se dire que toutes ces pratiques sont condamnées en tant que participants d'une pratique divinatoire. Donc les incisions, les tatouages, etc., etc., ça fait partie de rituels. Dans l'Antiquité, il y en a des rituels où justement pour invoquer la divinité ou pour invoquer les morts, on se taillade les bras, etc. Tout ça, ça fait partie de pratiques qui sont effectivement condamnées. Regardez verset 31, vous ne vous tournerez pas vers les spirites ou vers les médiums, etc. etc. Verset 34, vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous, tu l'aimeras comme toi-même. Donc il y a encore cette notion d'égalité et d'amour. Alors il faut se dépêcher parce qu'il reste que quelques minutes, je vois l'heure qui tourne. On revient sur des questions de rapport sexuel au chapitre 20. Il est question d'adultère, verset 10, chapitre 20, verset 10, adultère avec une femme mariée. Qui est condamné, mais ça on l'avait déjà dans les 10 commandements, de coucher avec la femme de son père, de coucher avec sa belle-fille, verset 12, de nouveau, verset 13, si un homme couche avec un autre homme, etc., etc., verset 15, rapport sexuel avec une bête, etc., etc. Donc on revient sur les questions de sexualité.
Verset 23, vous ne suivrez pas les prescriptions des nations que je vais chasser devant vous. C'est parce qu'elles ont commis toutes ces actions que je les ai prises en horreur. Donc vous voyez, il y a aussi, on veut marquer là encore, toutes les prescriptions qui sont données visent également à bien distinguer, bien faire une distinction entre le peuple d'Israël et les autres nations. À la fin du verset 26, à la fin du chapitre 20, je vous ai séparé des peuples pour que vous m'apparteniez. Donc Dieu sépare le peuple d'Israël. Alors on trouve au chapitre 21 des règles relatives aux prêtres, sur des questions d'impureté elles-mêmes. Je passe rapidement là-dessus. On retrouve au chapitre 23 de nouveau un calendrier des fêtes qu'on avait déjà vu dans l'Exode. Donc on les retrouve ici dans le Lévitique. Alors vous voyez, ça vient en doublon, mais rappelez-vous que ce sont probablement des livres qui ont eu des rédactions séparées les uns des autres. Donc c'est normal qu'on retrouve les mêmes choses. Donc au chapitre 23, vous avez les fêtes. Et ça, on l'avait déjà vu dans Exode 23. Donc c'est facile à retenir, Lévitique 23, Exode 23, c'est le chiffre 23. Et on les retrouvera dans Deutéronome chapitre 16. Donc vous voyez qu'il y a, il y a un petit peu des redites, il y a du copier-coller. Ce sont des livres différents qui ont des origines différentes. Donc il y a le sabbat, verset 3, la Pâque, verset 5, la fête de la moisson, verset 10, avec les prémices, etc., etc. La fête des semaines, au verset 15, donc on compte 7 semaines, donc ça fait cette fois 7, 49, donc il y a le 50e jour. Donc 50e, ça fait penser à la Pentecôte en grec. Pentecôte, ça veut dire, c'est fait référence au 50e jour. Et puis, bien sûr, le jour de l'expiation, verset 27, etc., etc. Vous avez une sorte de résumé. On continue, verset 34, vous avez la fête des huttes. Donc c'est pour, au lieu d'habiter dans des maisons de pierre, eh bien, on habite dans des tentes. Donc là, ce sont pour se rappeler justement des pérégrinations dans le désert. La fête de Soukhot en hébreu. Souka, c'est une hutte en hébreu, etc., etc. Et donc, on rappelle également l'année sabbatique, chapitre 25, avec l'année du jubilé également, etc., etc. Au chapitre 26, on conclut par une série de bénédictions et de malédictions. Et ça, c'est un peu le contrat, si vous voulez, c'est le côté un peu légal du document. Voilà, je vous ai donné tout un tas d'instructions. Et donc, chapitre 26, verset 3, « Si vous suivez mes prescriptions, voilà toutes les bénédictions qui vont pleuvoir dans vos vies et sur vous. » En revanche, verset 14, « Si vous ne m'écoutez pas, etc., etc., si vous rejetez mes prescriptions, voilà toutes les malédictions qui s'en suivront. » Et ça, on retrouve la même chose dans le Deutéronome. « Si vous êtes fidèle, je vous bénirai. Si vous êtes infidèle, je vous maudirai. » Y compris sur la question du sabbat des années. Vous voyez, verset 34, il dit « Je vous enverrai. » Donc, verset 33, « Je vous disséminerai parmi les nations. » Donc, on avertit déjà de l'exil. Hein, l'exil à Babylone, tout ça, on dit « Attention. » Verset 34, « Alors le pays s'acquittera de ses sabbats le temps qu'il sera dévasté. » Donc si vous ne respectez pas l'année sabbatique, au bout de 6 années, vous laissez la terre en friche, eh bien toutes ces années que la terre n'aura pas eu, eh bien, elle se rattrapera pendant les années où vous serez partis en exil. Mais même ces malédictions sont toujours suivies, Dieu les disséminera, mais il les ramènera, voyez. Verset 40, ils confesseront leurs fautes, leur cœur incirconcis, verset 41, s'humiliera, et ils s'acquitteront de leurs fautes. L'idée de l'incirconcision du cœur, on la retrouvera dans l'Épître aux Romains, chapitre 2. Je me souviendrai de mon alliance, etc. Donc il y a toujours l'idée, c'est je les ramènerai. Donc la punition, le châtiment n'est jamais définitif. Et il y a toujours un reste. Et ça, dans la Bible, il y a la théologie du reste. C'est-à-dire que Dieu préserve toujours un petit nombre des survivants qu'il va ramener et qu'il va restaurer. Verset 46. Telles sont les prescriptions, les règles et les lois que le Seigneur mit entre lui et les Israélites au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Point. Et ça, normalement, c'est la fin du Lévitique. C'est une belle phrase de conclusion. Sauf que derrière, au chapitre 27, vous avez un complément, un appendice. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire. Ça, c'est typique de la rédaction des livres publics. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un, plus tard, alors combien de temps après, j'en sais rien. Est-ce que c'est 2 ans, 10 ans, 100 ans, 300 ans après, quelqu'un, à un moment donné, dit, mais attendez, j'ai encore autre chose à vous dire. Et donc, on retrouve un certain nombre de... Alors, c'est des précisions sur la valeur pécuniaire de certains éléments. Et puis, à la fin du chapitre 27... On retrouve un verset, verset 34, qui est pratiquement du copier-coller. Tels sont les commandements que le Seigneur donna à Moïse pour les Israélites au mont Sinaï. Et vous retrouvez plus ou moins la même chose, qui est une deuxième fin. Et c'est ainsi que s'achève le livre du Lévitique. Alors la semaine prochaine, on n'a pas cours, c'est les vacances, mais on se retrouve la semaine d'après et nous parlerons du livre des Nombres. Bonne semaine et bonnes vacances à chacun. Si vous avez des questions, bien sûr...